crois, des moments très difficiles. Très, très difficile. Cette année, j'ai eu une année très, très difficile. Donc là, c'est pour ça la médaille d'or qu'on vient de gagner. Elle fait plaisir parce que après l'année que j'ai passée, c'est vraiment bon, ouf. Enfin, ça a servi à quelque chose, quoi. Et c'est très dur, ouais. Mon style de vie est très, très dur. Mentalement et physiquement.
Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life.
Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde.
Ici, on parle aventure, challenge et anecdote.
Où l'objectif d'Yana est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences.
Le tout dans un contexte sans filtre.
فهاد الحلقة تعرفنا على القصة نورا بطلة المغرب وإفريقيا عن بيتش فولي. نورا عودتنا كيفاش بدأت القصة ديالها مع البيتش فولي على سون بروف كي ديكوفير سون تالون ملي كانت في الليسي في الرباط وكيفاش بدأت على جو سيزون فرنسا بور سوف سا باسيون. نورا هدتنا على الكواليس دو سا فيدا تلات دو هو نيفو على سا جورني تيب على لي تشالنج فينانسي اي فيزيك اللي كتعيشهم لي بليسور التدريبات ديالها في لي زو اس كومون يتخوف سي كوتش كيفاش السيرف كيعاون انها تفيدي ليسبري ديالها وكيفاش كتوجد راسها فيزيكمون اي مونتالمون لي كومبيتيسيون. Bref, je vais vous donner un peu de temps pour vous faire avec Nora.
Je m'appelle Nora Drel, je suis joueuse internationale de beach volley. J'ai grandi à Rabat, au Maroc, et à 16 ans, je suis partie en centre de formation de volley en France. Après ça, j'ai eu mon bac, j'ai signé dans une équipe à Montpellier en pro, et après, j'ai décidé de déménager aux États-Unis pour jouer en université. Là-bas, j'ai joué 4 ans en indoor. À l'université, et après ça, j'ai déménagé en Californie pour me consacrer au beach volley full time. Et depuis, ben, voilà, je suis en Californie, je m'entraîne toute l'année au beach volley et je viens jouer avec l'équipe nationale quand on a des compétitions.
D'accord. Et quand tu parles indoor, c'est plus le volley classique qu'on connaît
En indoor, c'est 6 contre 6 en salle, sur un terrain dur. Et le beach volley, c'est un sport complètement différent, en fait, même si ça se ressemble un peu. Très différent. C'est 2 contre 2 sur le sable. Avec des règles différentes, un ballon différent, une stratégie, une technique et un physique différent.
C'est vrai que quand on ne connaît pas bien le volley, on a l'impression que c'est un peu le même sport, mais au final, non.
Non.
Oui, déjà, j'aime bien que je suis l'enfance qui fasse en fait d'arrêter le talent d'y voler ou comment tu t'es orientée vers ce domaine.
Alors, je me suis pas orientée moi-même. En fait, je faisais beaucoup de sport en compétition. Je voulais sport suivre. Depuis que je suis jeune, je voulais sport suivre. Mes parents sont dans le sport. Donc, j'avais commencé avec l'équitation, la gymnastique. Mes parents m'ont pas laissé faire ça, pour ma carrière professionnelle. Après, il y a eu l'athlétisme. Là, mes parents m'ont poussé un peu dans l'athlétisme. J'ai eu un accident qui m'a coûté un peu ma carrière d'athlétisme. Et du coup, un jour, j'étais au lycée et le prof de volley m'a dit, toi, je t'ai vu en gym, tu vas venir jouer au volley. Moi, je ne connaissais rien du volley, je ne savais même pas si c'était comme sport, je ne connaissais pas les règles, je lui ai dit, ouais, non, merci, je n'ai jamais sport. Je lui ai dit, à haut niveau, je faisais l'équitation, le sexisme, la gym, j'en oublie un. Mais voilà, donc j'avais assez déjà de sport, je n'avais pas besoin d'aller faire un autre sport, il m'a dit, non, tu vas venir au volley. Bref, moi, j'ai pas pensé que ça au volley, et un jour, il est venu me chercher, je n'allais pas au volley. Il m'a inscrite, mais je n'allais pas. Et c'était entre midi et deux au lycée, et un jour, il est venu me chercher. Il m'a dit, Nora, tu viens voler tout de suite. J'ai dit, non, j'ai pas mes affaires, je suis en jeans. Il m'a dit, c'est pas grave, tu viens jouer en jeans. Je suis allée jouer et en fait, il m'a un peu montré comment se jouait le sport et tout. Je suis tombée amoureuse du sport. On avait une super équipe aussi au lycée. Et donc, c'est devenu vraiment ma passion. Et là, j'ai dit à mes parents, vous m'avez pas laissé partir pour la gym, pour l'équitation, dans un centre de formation, en sport-études, en gros. Maintenant, j'ai le volley, je veux partir pour le volley. Ma mère, elle m'a dit, pourquoi pas? J'avais 15 ans. Mon père, imaginant, mon père marocain, il m'a dit absolument pas. Je reste au Maroc, c'est une petite étude. Et j'ai eu de la chance, j'ai un ami que mes parents connaissaient qui monte aussi à cheval, et qui a aussi sa mère prof de sport comme moi, qui lui est parti pour le hand l'année d'avant. Donc, il est parti en France pour jouer au hand, sa carrière. Et du coup, je suis allée voir, j'ai dit, est-ce que tu peux avoir ta maman parler à ma maman, voir comment t'as fait, comme ça moi aussi je pars. Et donc, ça s'est passé comme ça, ma mère a parlé à sa mère. On a trouvé des centres de formation en France, on a trouvé des dates de test pour rentrer dans le centre de formation. Je suis allée passer les tests avec ma mère en France. Mon père, il dit toujours non, tu vas pas partir. On a dit, bon, déjà, on va voir, gars, si j'ai le niveau. Voilà. Techniquement, j'avais pas du tout le niveau parce que en France, je jouais déjà depuis 10 ans au volley en centre de formation avec des coachs et tout. Moi, je jouais sur le goudron au lycée Descartes en jeans ballerine, quoi. Donc, c'était pas la même chose. Et en fait, comme je faisais plein de sport, physiquement, j'avais du potentiel. Donc, j'ai été prise. J'ai été prise au centre de formation. Je suis rentrée, j'ai dit à mon père, je suis prise. Il m'a dit, non, je m'en fous, tu pars pas à 16 ans en France toute seule. Et finalement, on l'a convaincue. puis bah, finalement, je suis partie en France voilà, à 16 ans. Et en fait, ça s'est très mal passé d'ailleurs. Donc, ça a failli arrêter ma carrière de volley. Ça a été très dur pendant 2 ans. Et puis, je me suis retrouvée dans un club après mon bac. Dans un club à Montpellier qui m'a, lui, par contre, tiré vers le haut et qui m'a redonné envie de jouer au volley professionnellement. Et l'année d'après, bah, j'ai joué en pro. Donc voilà, ça s'est un peu passé comme ça. C'était pas du tout facile. C'était beaucoup de problèmes, surtout avec le premier club avec lequel j'avais signé à 16 ans, le club d'Istres, au sud de la France. Très, très mal passé, avec tout le monde d'ailleurs. Donc voilà, donc ça n'a pas été facile. Mais bon.
Donc, le hall, il y a des mauvaises surprises aussi. Hein. Même la saison, tu étais très, très jeune pour vivre une expérience comme elle.
Au début, ça, même aujourd'hui, j'ai encore des fois des moments très difficiles. Très, très difficiles. Cette année, j'ai eu une année très difficile. Donc là, c'est pour ça la médaille d'or qu'on vient de gagner, elle fait plaisir parce que après l'année que j'ai passée, c'est vraiment bon, ouf, enfin, ça a servi à quelque chose, quoi. Parce que c'est très dur, ouais. Mon style de vie est très, très dur. Très, très dur. Mentalement et physiquement.
Et quand tu
Non,
parles de style de vie, ça me fait penser à une question, c'est en fait, qui va ton style de vie et ta journée type aussi. C'est quelque chose qui nous intrigue tous, de savoir un peu qui fait les athlètes ou les champions qui échouent les entraînements, entre les entraînements, l'alimentation, tout ça.
Alors moi le problème c'est que j'ai une situation un peu particulière. Normalement ma vie elle devrait pas ressembler à ça. C'est pas normal pour une athlète de haut niveau d'avoir le style de vie que j'ai parce que bah déjà j'ai un visa qui me permet que de m'entraîner aux États-Unis, un visa qui coûte extrêmement cher. Avec j'ai pas des parents qui sont riches donc je dois travailler tout le temps pour pouvoir juste payer pour avoir le droit d'être dans le pays où m'entraîner. Je m'entraîne pas là-bas. C'est vraiment là-bas que c'est grâce au fait que je suis là-bas et que je m'entraîne toute l'année que j'ai toutes ces médailles avec le Maroc. En plus, voilà, d'avoir une super partenaire, voilà, etc. Mais c'est vraiment d'être là-bas en Californie. J'ai besoin d'être là-bas si je veux vraiment percer dans le bisphénol. Donc, j'ai pas le choix. Mais moi, ma vie, c'est à 5h30 du matin, réveil. 6h30, je suis sur la plage. Froid, vent, pluie, n'importe. 6h30 sur la plage, je m'échauffe. 7h, l'entraînement commence. Je finis à 9h. L'entraînement, c'est l'entraînement où c'est jamais facile. Donc, généralement, à 9h du matin, je suis déjà KO physiquement. Je rentre, je me douche vite fait, je prends un petit smoothie ou un truc comme ça, un truc à manger. Et je travaille après jusqu'à 20h. Et enfin, voilà, je rentre à 20h, je mange, je vais dormir. Parce qu'après le lendemain, je me réveille à 5h30 du matin. Et les week-ends, soit j'ai des tournois, pas souvent, parce qu'encore une fois, il faut payer les tournois, etc. Mais sinon, la plupart du temps, je travaille. C'est le week-end où d'ailleurs je me fais le plus de sous généralement, donc je travaille tous les week-ends. Et cette année, il y a un moment donné, pendant 4 mois, je crois, j'ai pas eu un jour où j'ai pas travaillé. Donc, mais c'est pas normal parce que d'ailleurs, c'est pour ça que je me blesse un peu plus souvent maintenant. Parce que, voilà, au lieu de me prendre le temps de m'étirer après l'entraînement, de manger à des heures normales, des fois je mange pas jusqu'à 20 heures, c'est pas possible. Ou de faire ma muscu, j'ai pas le temps, faut que j'aille travailler parce qu'il faut que je paye ma situation là-bas qui est extrêmement, extrêmement chère, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, ma vie. Et surtout cette année, ça a été très dur parce que c'est l'année où je devais renouveler mon visa. Donc encore une fois, 7 000 $ de visa. Donc du coup, c'est voilà, c'est pas. Il faut bien que j'aille le faire quelque part cet argent. Donc des fois, la carrière de volley, elle passe un peu à côté parce que sans mon visa là-bas, ben, ma carrière de volley, elle n'existe pas. Donc, mais bon, c'est pas un lifestyle typique d'athlète de haut niveau.
L'infrastructure les handoff ou l'écosystème les kain في Californie qui عاونك بزاف انك يكون عندك un bon entraînement ou d'évoluer vers la carrière libre. كيفاش عامل هذا l'écosystème تماك؟
Bah, Romain, par exemple, ils appellent ça la Mecque du beach volley mondial. C'est vraiment l'endroit où le beach volley a commencé. Et c'est l'endroit où il y a tous les coachs olympiques qui viennent. Il y en a 3 coachs là-bas, 3 coachs olympiques brésiliens. Et il y a un autre coach de USA avant. Et c'est normal là-bas. Genre, tu vas pas, c'est normal. C'est pas genre, moi, je vais chercher vraiment le top du top. Évidemment, financièrement, c'est pas possible. Il y a encore mieux, tu vois. Mais non, c'est normal là-bas. Il y a toutes les équipes nationales qui viennent s'entraîner là-bas. Il y a le Canada qui sont championnes du monde. Elles s'entraînent là-bas, elles sont installées là-bas. Elles s'entraînent là-bas à l'année. Il y a les équipes américaines qui sont championnes olympiques. Il y a les grosses équipes européennes, elles viennent s'entraîner là-bas au moins un mois par an. Donc c'est vraiment du niveau. Voilà, c'est pour ça que tu progresses bien. C'est même pas juste ça, c'est le lifestyle, la mentalité des gens. Moi, j'ai été choquée quand je suis arrivée là-bas. Pourtant, j'ai joué dans plusieurs pays en Europe. C'est vraiment, ils vivent beach volley. Ils se lèvent beach volley. Ils font leur muscu pour le beach volley. Ils font leur méditation pour le beach volley. Leur préparation mentale pour le beach volley. Tout beach volley. Mais ça tourne plus autour de ça. C'est une culture que j'ai vu nulle part d'autre dans le monde. Nulle part. Comme ça. Alors vraiment, ta vie est consacrée au beach volley. C'est
Et ouais.
C'est pas facile.
Ou juste une question par rapport au potentiel d'Yalek aussi. Parce qu'en fait, pour devenir athlète en beach volley, واش اي واحد كيعجبو البيتش فولي يقدر يرجع اتليت ولا il faut avoir quand même واحد talent.
Moi, je dirais le talent peut-être, mais surtout la discipline, surtout là-bas en Californie. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs. Parce que, aux États-Unis, il y a énormément d'équipes de volley universitaires où il y a des super joueuses de volley, super joueurs de volley. Et du coup, chaque année, je vois ça. Même moi, quand j'ai déménagé, tout le monde vient après l'université. Tu n'as pas de championnat pro indoor. Il n'y a que le beach volley si tu veux continuer à jouer aux États-Unis. Sinon, il faut partir en Europe. Donc, on a beaucoup de filles. On a même des filles de l'équipe nationale américaine indoor qui viennent. Et qui viennent jouer au beach volley. Et à chaque fois, c'est, ah, oh, cette fille-là, elle joue en équipe américaine, elle a 2 médailles olympiques. Et tu les vois arriver au beach volley, c'est dur, tu vois, pour elle, parce que c'est vraiment, comme on dit, cutthroat. Genre, tu vas jouer contre des filles de 17 ans, depuis qu'elles sont nées, elles sont dans le sable, genre, c'est leur environnement, et elles vont te mettre une raclée 21-5, 21-5 à ton premier tournoi, tu vas rien comprendre. Tu vas dire, parce que moi, je suis arrivée de la East Coast. La East Coast, je jouais plein de tournois les week-ends. J'ai gagné la plupart des tournois que je faisais sur la East Coast. Donc, c'est en Caroline du Nord, j'allais en Floride, tout ça. Je suis arrivée en Californie, je me dis, ça va, genre, j'ai un niveau quand même, je gagne sur la East Coast. Non, j'ai joué contre une équipe de, voilà, de 17 ans, des monstrueuses défis, genre, à un niveau, mental, technique, elles vivent, elles font que ça tous les jours, genre, à
Wow.
l'école, depuis qu'elles ont 12 ans, donc, voilà, c'est vraiment, donc c'est dur, genre, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui, au final, ça leur correspond pas, c'est trop dur. Parce que il faut pouvoir avoir le mental déjà de perdre presque tous tes tournois et de continuer à revenir à l'entraînement au début. Et il faut la discipline parce que si toi tu t'entraînes, si un jour tu veux pas te lever, tu veux pas t'entraîner, bah il y a 1 000 personnes qui seront levées pour aller s'entraîner. Ces personnes-là, tu vas les jouer au tournoi le week-end prochain, tu vois. Donc si t'as pas la discipline, voilà, et le mental qui va avec, ton talent il va servir à rien. Enfin, pas là-bas, pas là où j'habite. Pas là où j'habite.
Pour avoir la discipline, je crois pour moi c'est plus simple de discipliner un domaine qui te passionne. Mais je crois que la vie, il y a des hauts et des bas. Qui fait que tu gardes la motivation d'y aller, comment est-ce que tu seras discipliné?
Ben c'est dur, c'est très dur, parce que j'ai eu, par exemple, une blessure qui a arrêté ma carrière pendant longtemps, qui m'a fait perdre, enfin, qui m'a fait passer la qualif aux Jeux Olympiques, j'ai pas pu jouer, alors que je m'entraînais pour ça depuis 3 ans. J'ai sacrifié beaucoup pour ça depuis 3 ans, donc ça a été très, très dur mentalement, et ça m'a donné envie d'arrêter à un moment donné. Je me suis dit, pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, j'ai 30 ans, genre, je pourrais avoir, j'ai des bons diplômes d'études, je pourrais avoir un bon boulot et être confortable dans ma vie. Et là, à cause de mon sport, je suis pas du tout. Mais à chaque fois, je me rappelle pourquoi j'ai commencé, en fait. Et j'essaie d'imaginer ma vie sans le sport. Et je me dis, c'est juste impossible, je serais malheureuse. Et en plus de ça, là, les dernières années, il y a un truc qui vraiment m'a touchée. Et que même dans les tournois, quand ça va pas, je pense à ça. C'est que je me suis rendu compte, en commençant, voilà, à faire des interviews comme ça, etc. Et de gagner avec le Maroc, il y a beaucoup, beaucoup de gens, je m'en rendais pas compte, qui me suivent, des jeunes, et pas que des jeunes, des filles et des garçons, donc, qui me suivent et qui me disent, waouh, quand je joue au volley, je pense à toi, je me suis regarde, elle, c'est une battante, donc moi, j'ai pas le choix. Et je me dis, waouh, en fait, c'est bigger than me. Ça, et ça, je m'en rendais vraiment pas compte avant. Et là, encore une fois, il y a une semaine, il y a une fille qui m'a dit, ouais, je suis vue à la plage, je te suis depuis longtemps, j'ai 13 ans, je joue au volley. Est-ce que ça te dit de juste jouer 5 minutes avec moi à la plage? Mais avec plaisir. Et genre, je me dis, tu peux pas, si toi tu arrêtes, ces gens-là, ils ont plus d'espoir, donc t'as pas le choix, genre. Genre, ouais, si tu arrêtes, voilà. Je me dis, non, c'est pas possible. Et ça, c'est vraiment dernièrement, et c'est encore un plus, genre, je me dis, ouais, en fait, c'est pas que du sport, quoi. C'est pas que du sport.
Et comme quoi aussi la motivation me guide ici à l'intérieur de l'ouahid que j'ai aussi les autres l'environnement. Ou du coup, j'ai été franchement à 16 ans, j'imagine que quand ça arrive, c'est vrai que j'ai niveau carrière ou niveau beach volley et sport, mais aussi niveau expatriation, en existant de l'environnement, je dis, bah, t'es là, la famille dialogue et tout. Qu'est-ce que je
Ouais.
disais?
Alors, être loin de la famille, ça va parce que mon père est athlète professionnel, donc pareil, donc quand j'étais jeune, j'étais souvent en déplacement, en compétition, etc. Donc le lifestyle, je connaissais un peu et ça, c'est là où j'ai de la chance. Parce qu'on me dit souvent, tu as de la chance d'habiter aux États-Unis. Non, non, il n'y a pas de chance, j'ai galéré, il n'y a pas eu de chance. J'ai tout fait moi-même, j'ai galéré, même financièrement. Alors c'est pas comme si mes parents pouvaient me payer ma vie aux US, non. Mais par contre, voilà, là, le fait d'avoir grandi dans un monde sportif, ça va. D'être loin de ma famille, ça allait. Mais par contre, moi, j'avais jamais vécu en France. Après, j'étais au lycée français, donc bon, ça va. Culturellement, c'est pas comme si j'étais complètement choquée. Et puis, ma mère, elle est quand même européenne. Mais c'est vrai, en fait, c'est l'environnement qui a été dur. Elle, pour la première fois, j'étais du lycée où je gagnais plein de compétitions de gym, d'athlétisme, sans m'entraîner presque, genre sans discipline, quoi. Genre, l'athlétisme, c'était, on n'avait pas d'entraînement. C'était bien faire les tests avant la compétition, on va à la compétition, je gagnais une médaille. Ça, il y avait pas de, c'était pas compliqué. Pareil, capitaine d'équipe de volley, on gagnait tout, on était invaincus. J'arrive en France, je suis la moins bonne dans l'équipe, tu vois. Et ça a été très dur, enfin, mentalement, de t'ajuster. Tu viens d'un milieu où, genre, t'as plein de facilités et t'arrives dans une équipe où, ben, en fait, tout le monde a beaucoup plus d'expérience que toi, beaucoup plus de technique, beaucoup plus de mental, beaucoup plus d'accompagnement. Et ça a été très dur parce que, en fait, je me suis aussi retrouvée dans un club où l'accompagnement des jeunes n'était pas bien du tout, du tout, du tout. J'ai là, je dis, on n'a rien à faire. Je dis, c'était vraiment horrible, très très mauvais, très toxique comme environnement, surtout pour des jeunes. D'ailleurs, ce centre de formation, il n'existe plus.
Donc,
Donc, c'était très dur. Et moi, ma deuxième année, d'ailleurs, il y a mes profs du lycée. Heureusement que j'étais bonne élève. C'est mes profs du lycée qui ont dû se mettre entre le centre de formation et moi, parce que c'était vraiment de l'abus mental à ce moment-là. Donc, ça a été vraiment dur. Et ça m'a fait, voilà, ça m'a fait réfléchir, est-ce qu'en fait la carrière de sportif de haut niveau, c'est pour moi, à 16-17 ans, alors qu'en fait, c'était pas du tout moi le problème, c'était le club. Et heureusement que j'ai pas arrêté, mais bon, ça a été très, très dur. Surtout en passant le bac, etc., loin de ta famille, exactement. Ça a été dur, mais bon, je suis une battante, mes parents m'ont élevée, comme ça, donc c'est dur pour moi d'abandonner quelque chose qui me tient à cœur, c'est très, très dur pour moi. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai, c'est pas une décision que je vais prendre du jour au lendemain.
Donc, c'est pas comme j'avoue que des moments de doute, est-ce que c'est pour toi et tout, mais ça n'a pas impacté la carrière d'Elk.
Bah, ça l'a impacté, mais ça m'a forgé en fait. Ça m'a plus forgé. Voilà, je me dis, voilà, j'en suis là aujourd'hui. Encore une fois, là dernièrement, ça va parce que cette année, on m'a demandé de partager un peu ma vie aux États-Unis, comme en fait, l'année dernière, j'ai eu un peu de visibilité en gagnant le championnat d'Afrique. Là, cette année, les gens, ils ont un peu suivi ma vie, ils ont un peu suivi ma routine aux États-Unis. Ils ont compris qu'en fait, c'est très, 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 très dur. Et d'ailleurs, je viens d'avoir mon visa, là. Il vient d'être accepté il y a 2 jours. Ça y est, enfin, mon dernière étape de visa, c'est pour ça que je suis en Belgique, hein. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, waouh, enfin, bravo, on est content pour toi. On a vu que ça a été très dur cette année. Mais avant ça, on s'était, ah ouais, elle, l'international déjà. On m'appelait l'international. Alors que j'ai grandi à Rabat. Alors, mon père, il a représenté le Maroc pendant 20 ans. Et on m'appelle l'international parce que j'ai décidé d'aller m'entraîner dehors. Non. Ça, et après, on me disait, ouais, de toute façon, elle a de la chance, elle est aux États-Unis. Mais cette année, après son championnat d'Afrique, je suis retournée aux États-Unis avec un billet d'avion. Pas d'appartement, pas de travail, rien. Même pas de coach, parce que j'étais partie depuis un an et demi à cause de ma blessure. Donc, c'est pas de la chance. Et du coup, voilà, genre, c'est pour ça que des fois, ouais, des fois, tu doutes, mais bon. Voilà.
C'est
Et on
vrai,
me
mais
dit.
kayen bzaf le khedma derrière.
Il y a beaucoup, beaucoup de sacrifices.
Chnou les risques les qui j'ai wakf f domaine dialogue.
Bah déjà, la blessure, qui m'est arrivée, moi. Parce que quand tu es blessé, ben, moi, toute ma vie, elle tourne autour du beach volley aux États-Unis. Donc, quand je me suis blessé, je ne peux plus rien faire. En plus, pendant le Covid, avec les frontières fermées, qu'est-ce que je fais de ma vie, tu vois? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Voilà. Ça, et puis bah, financièrement, déjà en Californie, les Américains ils appellent ça le beach volley, ils appellent ça le hustle parce que déjà c'est dur d'être joueur de beach volley parce que c'est pas comme les autres sports où tu es payé comme un joueur de foot, tu es payé par un club, t'as un salaire à l'année. Au contraire, le beach volley c'est un sport individuel en fait. Donc aux États-Unis, tout le monde paye ses coachs, paye son matériel. Voilà, c'est à toi de trouver tes coachs, c'est à toi de te lever le matin. Il n'y a pas de voilà. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est trouver des sponsors. Moi, j'ai pas le droit d'avoir des sponsors américains. Donc moi, je suis en train de chercher des sponsors au Maroc, mais c'est compliqué parce que bah, le beach volley au Maroc, elle n'a pas encore beaucoup de visibilité. Mais du coup, voilà. Donc quand il y a beaucoup de risques financiers, quoi. Si tu te débrouilles pas, financièrement, tu rentres chez toi, quoi.
Donc
Donc
c'est
c'est un
plus
stress
risque
permanent,
physique.
permanent.
Donc c'est plus risque physique parce qu'en fait, maquiller la théorie, c'est plus dans la pratique physique et tout. Au financier, c'est pas donné en fait. Il faut payer ses entraînements, ses coachs aussi.
Ça. Et si tu le fais pas, ben voilà, c'est que tu rentres pas à la maison.
Donc
Bon.
c'est pas que tu mets un trail, un talent, tu t'entraînes, ça se passe bien. C'est
Non, mon sport il est très ingrat. C'est pas comme si tu étais joueuse de basket, tu vas trouver un club, on va te prendre en charge, on va même voler une heure. Tu vas trouver un club, on va te prendre en charge. Ouais, tu vas pas partie d'une équipe, ça y est, tout est fait pour toi. Non, au beach volley, c'est toi. Si tu ne te lèves pas à 5h30 du matin, peut-être que tu vas pas pouvoir t'entraîner, parce que voilà, il y aura plus de coach, il y aura plus de joueurs disponibles, tu vas être entraîné tout seul. Ça m'est arrivé d'ailleurs, quand j'ai déménagé en Californie, je connaissais personne. Je connaissais une personne et il m'a laissé son appart et tout, et lui, il était pas là. Donc voilà, ça, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Et voilà, va trouver tes coachs. Je peux pas juste venir comme ça sur un terrain et dire que je peux m'entraîner avec vous. Ça marche pas comme ça là-bas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des ballons. Allez, je me suis mise sur la plage. J'ai commencé à m'entraîner toute seule. J'ai commencé à faire mon physique toute seule, à m'entraîner toute seule. Et quelqu'un est passé, il m'a dit, ah, oh, salut, je t'ai jamais vu ici. Pourquoi je suis toute seule? J'ai dit, bah, je viens de déménager ici, je connais personne. C'est un garçon. Il a dit, écoute, moi, j'ai des filles. Bon, elles ont pas un gros niveau, mais commence à jouer avec elles. C'est comme ça que tu vas connaître du monde. J'ai dit, ok. Donc, il m'a mis en contact avec un groupe de filles qui jouent. Évidemment, c'était pas du gros niveau de, voilà, pas ce que je voulais faire là-bas. Mais ça a commencé comme ça. Mon cher, mais tu joues bien. Attends, tu mets en contact avec cette personne. Et c'est comme ça. Là-bas, c'est vraiment beaucoup de networking. Donc, c'est vraiment, réussir, ça dépend que de toi. C'est vraiment toi, individuel. Il n'y a personne qui va faire le travail pour toi. Mais si tu fais toi, normalement, tu t'en sors. Mais voilà, mais tu peux pas t'arrêter. C'est pas un jour, voilà, si t'as dit, je vais jouer demain avec les personnes et les coachs. Et le lendemain, voilà, je sais pas, moi, t'as fait la fête ou t'as décidé de pas dormir tôt. Et tu te lèves à 5 heures du matin et tu te dis, non, je peux pas aller m'entraîner. Tu vas pas t'entraîner avec eux, bah, peut-être que la fois d'après, ils vont pas vouloir t'avoir à l'entraînement. Toi, c'est toi et ça dépend que de toi.
Même si c'est un sport collectif, ça dépend que de toi.
Mais en fait, techniquement, c'est pas un sport collectif. Et comme c'est que deux sur le terrain, c'est plus individuel. Surtout aux États-Unis, c'est très individuel parce que les partenaires changent tout le temps. Alors que moi, au Maroc, généralement, je joue souvent avec Imane Zeroual. Et donc là, on est vraiment une équipe, mais quand même, ça reste un sport où si elle fait pas son travail et que moi, je fais pas mon travail, on va pas réussir en tant qu'équipe. Vraiment, voilà. Faut qu'individuellement, tu fasses ton travail aussi.
Ou l'entraînement commun ou là ça m'a
Bien sûr. Non, bien sûr, on s'entraîne ensemble. Mais, par exemple, moi, avant de revenir au Maroc, on se parle avec Imen et elle est en indoor. Elle s'entraîne pas au beach à l'année. Parce qu'il n'y a pas d'entraînement à l'année au beach. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, Imen, voilà, ils m'ont appelé, on a une compétition. Elle me dit, ok. Elle me dit, je vais commencer à aller dans le sable. Elle va s'entraîner un peu avec son mari qui est coach aussi de volley. Elle me dit, on va faire des exercices. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je demande à ma coach aux États-Unis. Je dis, voilà, ma partenaire au Maroc, c'est une bloqueuse. Elle n'a pas été dans le sable de l'année. Elle me demande un ou deux exercices qu'elle peut faire. Donc, on filme l'exercice avec ma coach. Je lui envoie. Elle le fait. Mais si elle le fait pas, moi, je vais arriver au Maroc. Elle n'aura pas touché le ballon de l'année. C'est différent. Elle n'aura pas été dans le sable de l'année. Ça va être compliqué. Elle va devoir, il y a une semaine où on va pas pouvoir progresser à l'entraînement. Parce que elle va devoir d'abord retrouver sa capacité physique. Donc c'est pour ça que je dis individuel. Alors avec Imen, j'ai pas ce problème, généralement ça va. Mais si ma partenaire au Maroc, elle décide de pas faire son travail individuel, ben on va perdre une semaine d'entraînement et on risque de pas gagner la compétition après. Donc voilà.
Je pense que ça aussi c'est un risque parce que le coéquipier d'elle, Christophe Taoué, il fait bien les entraînements et tout.
Mais c'est aussi, ça vient aussi de, voilà, nous on a trouvé une cohésion d'équipe où je sais que je peux pousser Imen et ça va aller. Genre, elle peut. Et pareil, elle aussi, des fois, j'ai un peu besoin de. Bon, après, j'ai l'habitude, donc ça va, mais j'ai un peu besoin de. Voilà, genre, je suis énervée ou quoi. Elle me dit, OK, viens, on va faire ça, viens, on va faire ça. Enfin, voilà, il y a plein, il y a l'environnement et c'est facile. Donc, ça va, nous, on a trouvé un bon partenariat où ça marche bien, mais bon, j'aurais pu être avec une partenaire qui décide de pas faire autant. Et là, ça aurait été compliqué, surtout pour quelqu'un comme moi qui a dédié sa vie à ce sport, de rentrer au Maroc et de quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de faire les sacrifices qu'il y a à faire, ça aurait été compliqué. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais de toute façon, même les deux équipes de beach volley qu'on a, généralement, on est pas mal disciplinés, ça va.
D'accord. On tient depuis toujours car c'est pour l'équipe nationale du Maroc.
Oui. Alors déjà, enfin, moi, je suis à moitié belge. c'était pas vraiment dans mes plans de jouer pour l'équipe nationale belge, parce que mon père représente le Maroc, et que je n'ai jamais vécu en Belgique. Là, ça fait une semaine que je suis là, il pleut tous les jours, j'en ai trop marre, je peux pas vivre ici. Mais aussi parce que voilà, j'ai grandi au Maroc, c'est chez moi, enfin le Maroc c'est chez moi, voilà, c'est mon peuple, voilà, même si au début il m'appelait l'étrangère, ça, c'est chez moi, et ça fait longtemps, bah, depuis que je suis jeune, j'avais contacté l'équipe nationale, j'avais pas le niveau avant, et donc là voilà, c'est ouais.
Ou quand tu dis j'avais pas le niveau avant, c'est en fait c'est quoi, c'est des tests les 4 dozo, là c'est moi qui arrive.
Ben, ça dépend. Là, maintenant, c'est plus, la détection nationale qui t'appelle, et on rentre en stage, et après, ils voient le niveau que tu as, et soit ils te disent, ben, reste, soit ils te disent, bon, non merci. Mais à l'époque, c'était quand j'étais vraiment jeune, quand j'étais encore au lycée, que je jouais au lycée. Là, j'avais pas encore le niveau, et après, je suis allée en France, là, je suis revenue un peu jouer. Et après, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait ma première sélection avec l'équipe nationale. Une fois que j'étais aux États-Unis, c'était compliqué. Il y a plein de compétitions que j'ai pas jouées. Parce que de un, j'étais bloquée aux États-Unis avec mon visa. Des fois, je peux pas sortir du territoire. Là, cette année, j'ai été bloquée entre décembre et mai. Je peux pas sortir du territoire parce que j'attendais que mon visa soit accepté. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à rentrer pour la compétition. Je suis rentrée un peu en retard. Et l'autre chose aussi, c'est que, des fois, la compétition, il y a pas besoin, genre, on a des bonnes joueuses en Europe. Des fois, il y a pas besoin que ce soit moi qui rentre. Il n'y a pas besoin que la fédération elle paye un billet cher des États-Unis pour rentrer. Du coup, il y a des compétitions que je ne joue pas.
C'est assez étonnant, Anna, le côté administratif où les Américains sont fluides pour les professionnels ou les athlètes de haut niveau.
C'est très dur aux États-Unis. C'est très, très dur. Très cher, surtout. Très, très, très cher et très dur. Ouais, surtout quand
c'est... À côté logistique, mais qui vient chez derrière...
C'est plusieurs fois. C'est vraiment le côté qui met vraiment ma vie en difficulté. Et pas qu'en difficulté, qui met ma vie en péril aussi. Parce que là, j'ai payé les 7 000 $. J'ai fait tout mon dossier de visa. Ça m'a pris 2 mois tous les jours. C'est un full-time job. C'est vraiment, pendant un mois, j'ai pas pu m'entraîner. Parce que si je finissais pas mon dossier, j'allais rater la deadline, je devais partir aux États-Unis. Et là, j'aurais plus m'entraîner du tout. Donc, c'est pas possible. Donc là, j'ai fait tout ça, j'ai fait mon dossier, j'ai attendu 5 mois, j'ai fait une procédure d'urgence qui m'a coûté encore 2 500 $ pour pouvoir rentrer au Maroc pour jouer. J'ai eu mon visa light accepté. Et d'après, je dois refaire un petit dossier en ligne 200 $ et aller faire mon interview dans l'ambassade américaine en Belgique. Je peux pas le faire directement aux États-Unis. Et à l'ambassade, j'ai mon interview et encore une fois là, ils peuvent me dire refusé. Alors que j'ai tout fait et que j'ai été accepté. Donc c'est pour ça, genre là, il y a 2 jours, j'étais en stress total parce que si là, ils me refusent mon visa. Ben, qu'est-ce que je fais? Alors, toutes mes affaires sont aux États-Unis, mes entraînements, je ne peux pas m'entraîner. Qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est vraiment le truc qui est toujours derrière ta tête, vraiment, genre, c'est dur et des fois, tu te dis, bon, j'abandonne, j'en ai marre. Quoi.
Ou sinon, je trouve les expériences ou les chihajas qui est le domaine dialectique, les jets très dur, on regarde de côté visa, administratif et tout.
Le plus dur, c'est financièrement parce que ça coûte extrêmement cher et en fait je travaille plus pour payer les visas. Et en fait, mon argent il passe tout dans les visas. Toutes mes primes des équipes nationales, je les vois pas passer. Je reçois ma prime, allez directement pour le visa. Il y a pas, c'est vraiment, c'est très dur financièrement. C'est pour ça que là je cherche des sponsors parce que on pourrait jouer à plus de tournois. Je pourrais faire plus, parce que même en Californie, les tournois, ils sont chers. 500 dirhams le tournoi à chaque fois. Donc, je joue pas les tournois tous les week-ends parce que non seulement je perds des sous quand je suis en tournoi parce que je travaille pas et en plus je dois payer. Donc, c'est compliqué. Donc, des fois, je suis obligée de faire un sacrifice et me dire, je vais pas jouer ce tournoi. Et du coup, c'est aussi pour ça que des fois, j'ai pas des super partenaires parce que j'ai pas de visibilité sur les tournois. Et du coup, voilà, c'est dur. J'aimerais bien trouver justement des sponsors là au Maroc, pour que ce soit un peu plus facile et pour que je puisse me concentrer un peu plus sur le sport que sur les choses à côté.
C'est vrai que les sponsors qui t'orientent plus vers les sports les plus connus, les plus populaires, du coup, le beach volley, machine populaire, c'est le football, mais du coup, qui fait que... D'abord, Halina, Jar, Maroc et tout. Mais du coup, Tina, kifesh kadouz dik la période diel zama pour trouver un sponsor et tout?
Bah, c'est difficile parce que d'habitude, je vais en Maroc que pour la compétition où je repars. L'été, justement, je suis là depuis fin mai ou je suis là jusqu'à novembre parce qu'on a encore les Jeux méditerranéens, les championnats du monde. Et on a le premier tour de la qualif aux Jeux olympiques. Donc, je me suis dit, l'été, il faut que je commence à démarcher tous les compagnies. Mais souvent, en fait, les compagnies que je trouve, c'est, ben, on te donne des produits et on te sponsorise. Et les produits, j'ai pas besoin. Enfin, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai mes lunettes de soleil, j'ai mes visières, j'ai mes affaires pour m'entraîner. J'ai pas besoin de produits. Donc voilà, je cherche vraiment des sponsors financiers qui veulent bien m'aider financièrement et qui, en plus, genre, j'ai vraiment, maintenant, j'ai une plateforme. Je passe, comme vous avez vu, je passe sur 2M, je suis interviewée par la Brut, Afrique, par vous, par l'opinion. Donc, du coup, c'est quelque chose que vraiment, pour moi, en tout cas aux États-Unis, c'est des trucs que les marques recherchent. Et au Maroc, je pense qu'on n'a pas encore cette mentalité de « Attends, en fait, c'est pas que du sport, c'est une image aussi qu'elle projette. » Du coup, c'est ce que j'essaie de justement faire comprendre là aux marques que je démarche. Mais bon, c'est pas facile, surtout que je fais tout toute seule. Donc, voilà.
Ou tout à l'heure, continuellement, tu peux pas être sponsorisé par une marque américaine. Là, c'est pas possible.
En fait, je peux tant qu'ils me payent pas aux États-Unis, parce que si je veux un sponsor aux États-Unis qui me paye directement aux États-Unis, faut que je fasse un amendment to my visa. Et le amendment to my visa, je dois faire pour chaque sponsor. Et pour chaque sponsor, je dois payer 1 500 $. Donc, faut que je trouve un sponsor qui me paye beaucoup plus que ça pour justifier le fait que j'ai payé 1 500 $ de amendment to my visa. Et d'après encore, c'est des papiers, des documents à faire, des procédures légales avec un avocat. Donc, voilà, c'est... J'ai pas le temps et l'argent de faire ça en plus. Genre, ça, it's not worth it. Sur ce calcul de, c'est pas.
Ou sinon, parlons des US. Kifesh de vous dire que la toute première période, les USA vient les US, ils continuent à faire ça après Dustin, les États-Unis, c'est pas du tout la même culture. Le monde a
un gros choc culturel. Surtout que moi, je suis passée du sud de la France à Montpellier, une ville qui bouge, voilà, avec beaucoup de sport, beaucoup de ça, au milieu de nulle part en Caroline du Nord, où genre les gens, ils savent même pas que le Maroc c'est un pays, la Belgique, n'en parlons même pas. Et je pense que l'Afrique, c'est un pays, pas un continent. Donc, ça a été très, très dur. Très dur. Moi qui voyais les US, ben pas que moi, genre même quand je suis au Maroc, à chaque fois, ils me disent, oh, les US, non, les US, c'est bien, mais on est vraiment sur un piédestal, alors qu'on est bien au Maroc aussi, on a beaucoup de belles choses au Maroc. Ça a été dur. Alors, pour le sport, par contre, genre, waouh, je suis arrivée, premier jour d'entraînement, sors de l'entraînement, on me dit, t'as besoin de la glace, t'as besoin de ça. Moi, je jouais en pro en France, je me blessais le soir à l'entraînement. J'avais pas de glace, fallait que je rentre chez moi, j'allais prendre la glace de mon réfrigérateur. Et le lendemain, j'allais voir mon médecin ou mon ostéo. Là, direct, tu as tout sur place, tu as les couvertures chauffantes avant l'entraînement, tu as le kiné avant l'entraînement, chaque entraînement, chaque jour, tu vois, dédié. Genre, il peut pas te dire, non, je suis busy. Non, il est là pour toi. Ça, c'est vraiment, en plus, on te donne une dotation, on te donne 40 000 t-shirts, chaussures, et c'était là, waouh, c'est quoi ça? J'avais l'impression que c'était une princesse. Mais par contre, voilà, culturellement, c'est très, très différent de nous, surtout de nous, Marocains. C'est vraiment, c'est un autre monde, donc il faut s'adapter. Même pareil, un Américain qui vient chez nous au Maroc ou en Europe, ça va être un gros choc culturel pour eux. C'est surtout en Caroline du Nord. Là, en Californie, c'est un peu différent, parce qu'en Californie, les gens, ils voyagent beaucoup. Donc, c'est pas la même mentalité. Ils sont beaucoup plus, ouverts sur le monde. Alors que là où j'étais en Caroline du Nord, vraiment, comme je dis, il y a des gens qui savent pas du tout que l'Afrique, c'est un continent. Donc, quand je dis, ouais, à Moroccan, ils me disent, quoi? Des fois, ils me disent, ah, Monaco, là, il y a la course, non, Morocco. Je leur dis, North Africa. Ils me disent, Africa? Isn't that a country? Non. Ou alors, ils me disent, comme le truc, le film Mingers, you're African, but you're not black. Je dis, ouais, on n'est pas tous noirs en Afrique, en fait. Donc ça a été dur, mais ça a été une bonne expérience. C'est bien de, moi je trouve que c'est bien de voir les choses comme ça, et parce que tu apprécies plus d'autres choses du coup.
C'est vrai. Romain, ils sont très professionnels, fait idéal aussi. Question à le logement. Qui va se partir de logement?
Mes premières années j'étais en université. J'ai une bourse pour jouer au volley et j'ai une bourse académique grâce à mes notes à l'université. Donc ça allait. T'es logé à l'université. Là, par exemple, quand je suis retournée après championnat d'Afrique, avec la guerre en Ukraine, tout a augmenté. L'inflation est catastrophique. Déjà, c'est extrêmement cher là où j'habite. Mais là, quand je suis rentrée juste avec un billet d'avion, J'ai cherché partout. J'étais au point où je regardais les billets d'avion pour rentrer au Maroc parce que je peux pas me payer un logement là où j'habite. Et le truc, c'est que t'as pas beaucoup de choix. C'est pas genre, par exemple, je suis passé au Maroc, t'es à Rabat, c'est cher. Tu dis, bon, je vais sortir un peu de Rabat et je vais habiter un peu plus loin. Là où j'habite, tu peux pas faire ça parce que tu as la côte, extrêmement cher. C'est là où il y a le beach volley. En plus, je me traîne à 7h du matin. Je peux pas faire une demi-heure de route. Ça veut dire qu'au lieu de me lever à 5h, je me lève à 5h30, je me lève à 5h. À un moment donné, je peux plus tenir physiquement. Mais c'est même pas juste que ça, c'est que j'habite à Los Angeles. Et à Los Angeles, tu as des quartiers qui sont très, très, très dangereux. Et en fait, là où j'habite, tu n'as pas le choix. Soit tu habites là où c'est très cher. Soit après, si tu vas un peu trop inland, c'est très dangereux. C'est, et quand je dis très dangereux, je ne parle pas de dangereux Maroc. Je parle de dangereux américains avec les gangs et voilà, les trucs comme ça. Donc, tu peux pas, c'est pas, voilà. C'est pas, tu te dis, ah, c'est pas grave, je vais faire attention. Non, non, non. C'est hors de question. Et tu ne peux pas habiter là-bas. Donc, tu es obligé de, voilà, d'habiter là où c'est cher. Parce que tout est cher là-bas, à part ça. Et du coup, ça a été très dur et j'ai eu la chance de trouver des personnes qui me connaissaient, qui jouaient au volley aussi, qui avaient une chambre d'amis et qui m'ont proposé de rester avec eux et de payer un peu moins. Ça reste extrêmement cher, surtout par rapport à l'Europe et le Maroc, mais c'est moins que ce que j'aurais pu trouver toute seule. J'ai eu la chance. Mais encore une fois, c'est pas de la chance, c'est du networking, c'est le fait que voilà, c'est une personne qui a l'habitude de vivre seule, qui est responsable, qui, voilà. Donc c'est, voilà, c'est je n'aurais pas proposé ça à tout le monde. Donc,
quand tu dis cher, Chal, si on peut avoir un ordre de grandeur,
alors, pour une chambre, donc je ne vais pas parler de moi parce que je ne veux pas que eux, ça leur fasse des problèmes, mais pour une chambre, juste une chambre, dans une maison avec 3-4 colocs, c'est dans les 1 200 $ le mois.
Mmh.
Voilà.
D'accord, ouais, c'est... voilà. C'est cher quand même.
Mais après, moi, je m'entraîne tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Ça, à chaque fois, si tu veux. Parce que là-bas, tu ne vas pas t'entraîner tout seul. Il faut les coachs. Tu es dans un niveau où tu ne peux pas t'entraîner tout seul. Et c'est pas. Voilà, ouais, j'ai pas besoin de payer des coachs. Non, non. Si tu ne payes pas tes coachs, tu vas pas être au même niveau que les autres. C'est pas possible. Les coachs, tu fais une session, c'est entre 40 $ et 120 $ la session. Par jour. Voilà, ça dépend de ce que tu recherches. Par jour. Et après, ta salle de muscu. 70 $ le mois minimum. Donc moi, j'ai de la chance là où j'habite, ils ont des appareils de muscu dans le garage, je fais ma muscu dans le garage. Et voilà, donc ça s'ajoute vite. Et d'après, tu as la voiture, l'assurance voiture. Parce que là-bas, tu ne peux pas prendre le métro, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, c'est voiture, tout le monde adore une voiture. Ton matériel, ton ballon de volée, le ballon tout seul, 80 $, 800 dirhams le ballon, presque au moins 10 ballons. Bref, ça va vite. Les lunettes de soleil, ça va très vite, ça va très vite. Donc c'est, ouais, c'est dur, c'est dur. Donc c'est travail tout le temps. Enfin, pour moi, dans ma situation.
Ou sinon, en parlant de coach, qu'est-ce que tu as trouvé Nahada, c'est un bon coach ou là, c'est plus par rapport à l'expérience des loups ou là, par rapport à comment le feeling qu'ils ont aussi?
Non, moi, je trouve que c'est plutôt individuel. Parce que, par exemple, moi, je m'entraîne beaucoup avec des coachs brésiliens. Ça marche très bien. Parce que c'est une école de voilà, répétition de technique. Moi, j'ai besoin de ça. C'est comme ça que j'ai appris le volley en France. Le beach volley, j'ai commencé en France. C'est comme ça que j'ai appris. Et après, t'as les coachs américains, eux, c'est moins de répétition, plus stratégie, plus, aussi physique. Donc, moi, je suis un peu petite pour les coachs américains. Pour les Brésiliens, il y a beaucoup de petites de taille. Bon, là, par contre, les États-Unis, ça commence à changer. Tu as de plus en plus de filles de petites de taille qui sont plus, voilà, genre, techniques et tout. Et du coup, j'avais des Américains qui s'entraînaient avec moi, avec les Brésiliens. Ça n'a pas marché. Alors, pour moi, ça a très bien marché. Et moi, je me suis entraînée avec un super coach américain pendant 4 mois et j'ai pas progressé. Alors c'est un coach, un super coach bien connu qui a coaché des super équipes. Et avec moi, ça n'a pas marché parce que moi j'ai besoin de la répétition. Et on faisait pas de répétition. Et donc du coup en fait là j'ai un système que j'ai trouvé qui marche très bien. J'ai deux coachs brésiliens que j'utilise souvent dans la off season, donc pendant l'hiver où là j'ai besoin de la répétition, j'ai besoin de travailler ma technique, de la raffiner, etc. Et j'ai deux coachs américaines. Qui, elles, sont beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus... ah ben là, tu regardes ton poignet plus là que là, plus physique aussi. Donc voilà, j'alterne selon mes besoins, selon la partie de l'année dans laquelle je suis. J'alterne ces coachs-là.
D'accord. Trouve un peu l'équilibre pour tirer profit un peu des deux types. Ou sinon, dans l'avenir, tu te vois, Haïda, coach, maybe...
Déjà coach. Déjà, je coach une équipe indoor depuis 14 ans.
D'accord.
Et je coach des leçons privées de beach pour adultes, enfants et tout. Donc, je coach déjà. Alors, j'aime bien faire ça, j'aime bien transmettre ma passion, surtout travailler avec des gens qui vraiment veulent avancer, ça j'adore. Mais je veux pas faire ça full time. Moi, j'aime bien avoir l'équilibre, justement. J'ai toujours été, j'aime pas qu'on me définisse comme athlète seulement, parce que je travaille à côté, j'ai des projets à côté, voilà, j'ai fait des études. Et j'aime bien avoir cet équilibre entre quelque chose qui n'a rien à voir avec mon sport et mon sport. Par exemple, un été, j'ai travaillé dans la mode pour la Fashion Week. Un truc qu'on m'a proposé, et j'avais jamais fait de ma vie, j'ai dit oui, absolument. Alors, j'aime bien faire des trucs qui n'ont rien à voir avec mon sport. J'ai besoin de cet équilibre. Si je reste dans le monde du sport toute la journée, c'est dur. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui en demande beaucoup de moi-même. Donc, si un entraînement se passe pas bien de 7h à 9h du matin, et que tout le reste de la journée, je reste dans le monde du sport, parce que l'entraînement, il va pas sur ma tête. Alors que si après, je passe au bureau et je dois, voilà, gérer des clients, ça n'a rien à voir, j'oublie complètement l'entraînement que je mets pas. Et voilà, c'est comme ça que j'ai mon équilibre. C'est pareil, genre, je peux pas travailler sans avoir mon sport. Et surtout le sport le matin. J'aime pas m'entraîner après le travail, surtout avant le travail. Parce que sinon, mes idées dans ma tête, elles sont pas claires. C'est foggy dans ma tête. Voilà, j'ai cet équilibre depuis des années, j'en ai besoin.
C'est ta façon de trouver un peu ton équilibre et te reposer un peu de.
C'est ça, exactement. Parce que ça en demande beaucoup physiquement et mentalement. Et du coup, voilà, de faire quelque chose qui n'a rien à voir, en fait, ça, voilà, ça me change un peu ma perspective. Ça me fait aussi dans la vie, il n'y a pas que ça. Voilà. Parce que, bon, en tant que sportif, surtout quand tu es au niveau, voilà, enfin, au niveau où je suis en Californie, quand tu te lèves tous les jours à 5h30 du matin et tout, qu'après tu pars en compétition et que tu perds, donc tu te qualifies pas aux Jeux Olympiques, ou tu, voilà, des trucs comme ça, c'est très, 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 très dur mentalement. Et c'est quelque chose qui est indescriptible. Genre, c'est pas comme si tu te fais virer ton travail. C'est vraiment un truc où t'as mis toute ta personne dedans. Et en gros, je me rends compte que bah, même en faisant tous tes efforts, c'était pas assez performant, voilà. Donc c'est vraiment, c'est très très dur, et surtout que les sportifs, généralement, on a quand même un petit ego, parce que c'est ça qui te fait être une battante sur le terrain. T'es obligé d'avoir un petit ego, c'est normal. Après, c'est un ego sportif, c'est pas un ego dans la vie de tous les jours, quoi. Et du coup, une défaite comme ça, c'est dur. Et si t'as pas quelque chose d'autre à côté pour te changer les idées un peu, ou pour
te protéger un peu aussi.
Te protéger. Ça peut vite, ça peut vite tourner mal. Je peux partir en dépression, je peux arrêter complètement le sport. J'ai déjà vu ça. Hein. Même moi, quand je me suis blessée, j'ai fait une petite dépression. Quand je suis rentrée au Maroc, j'étais à mon poids de quand j'avais 16 ans. Je mangeais plus parce que j'avais plus mon sport et je savais pas quoi faire. Enfin, en plus, c'était pendant le Covid, donc en plus, je travaillais plus. Donc, c'était vraiment, c'était dur. Et donc, c'est pour ça que, voilà, moi, j'ai besoin de cet équilibre. Sinon,
Mais j'imagine aussi que ça va être dur. Et aussi, Emily, tu t'entraînes aussi. Je dois m'entraîner un peu plus.
Comme ils nous ont annulé les Jeux Mondiaux, ça fait 3 semaines que je ne me suis pas entraînée. Bon, je fais des trucs à côté. Je fais ma musculation, je fais du surf. Je ne peux pas rester sans faire de sport. C'est pas possible. Vraiment. C'est pas possible. Il ne faut pas être autour de moi si je ne fais pas de sport. C'est impossible. Il faut être loin de moi. Mais là, ça fait 3 semaines que je suis pas entraînée et j'ai ouais, de la culpabilité. J'endors pas. Je me dis, ouais, il faut que je m'entraîne, il faut que je puisse m'entraîner. Mais là, j'ai même contacté les équipes belges pour pouvoir m'entraîner. Il y a un entraînement ce soir, mais il pleut, il fait froid. Moi, j'ai rien. Je vais aller m'entraîner à Almarad. Ça sert à rien. Je vais me blesser. Ça sert à rien. Donc, c'est très dur. Ouais. Moi, aux États-Unis, je prends pas de repos normalement. Je prends pas vraiment de repos, à part quand j'ai le visa et que j'ai besoin d'être sur autre chose. Mais. Surtout dans le beach volley, tu dois être dans le sable le plus souvent possible. Parce que ta condition physique du sable, tu la perds très, très vite. Comme c'est pas ton environnement naturel, tu perds très vite ce qu'on appelle les sand legs. Donc, faut pas rester loin du sable. Là, 3 semaines loin sans être dans le sable. Bon, je surfe, donc je marche dans le sable quand même, mais c'est pas pareil. Je fais pas mes efforts, là. Je saute pas dans le sable, etc. Et là, c'est dur. Donc là, dès que je rentre au Maroc, je vais aller au moins faire mon physique dans le sable, même si je peux pas m'entraîner parce que c'est pas possible.
Ou je pense que Kane aussi le challenge en tant que femme aussi. Les femmes, ils n'ont pas tendance forcément à s'orienter vers des domaines d'athlétisme ou de sportif de haut niveau. Ou le Maghreb aussi. Comment tu vis la difficulté ou le challenge?
Franchement, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, je trouve. Vraiment beaucoup mieux. Quand j'étais jeune, non. Quand j'étais même au lycée, j'étais au lycée français en plus, j'avais des profs européens, même pas que marocains, européens qui me disaient, ouais, le sport ça sert à rien, faut se concentrer sur les études. Et on dit à mes parents un jour en réunion parents-prof, ils me disent, oui, Nora, elle est un peu trop concentrer sur le sport. Ils ont dit ça à mes parents qui sont sportifs. C'est mal passé. C'est mal passé.
Heureusement qu'une fille n'a supporté par tes parents.
Mes parents et mon père, ce qu'il avait fait, j'avais mes sports. Mais dès que mes notes elles baissaient, il m'enlevait un sport. Donc comme ça, voilà, je veux faire du sport. Ok, mais il faut que tes notes elles soient voilà, à la hauteur. Mais c'est vrai que même mes amis à l'époque, des fois ils me disaient, alors par contre, mes amis étaient toujours là en mode, waouh, c'est fou, comment t'es une athlète, tu fais du sport, c'est trop bien. Alors, ils me supportaient, mais enfin, ils me soutenaient. Mais j'avais quand même des fois des remarques du style, mais tu vas pas t'arrêter, genre, tu vas pas faire ça après le lycée quand même, genre, qu'est-ce que tu vas faire avec le sport, tu vois, genre. C'est pas méchant, mais c'était quand même, je me dis, bah, pourquoi c'est pas, si j'avais été joueuse de foot, un joueur de foot garçon, on m'aurait pas posé les mêmes questions. On m'aurait pas dit ça. Donc, parce que moi, je suis une femme, on me dit ça, non. Mais là, ça va mieux, je vois, on a beaucoup d'athlètes femmes qui font des résultats, bah là, même, on a les coureuses, des trucs comme ça, j'ai vu assis à la fin des résultats, voilà, enfin, on a beaucoup de résultats, et ça commence à, voilà, j'ai rencontré pas mal de femmes marocaines dans les dernières années, là, qui sont, comme moi, du style, bah, moi, si tu veux, je vais jouer avec les garçons, je m'en fous. C'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune. Il n'y a pas de filles qui jouent, c'est pas grave, c'est moi, je joue avec les garçons. Aucun problème. Et pareil, j'ai rencontré beaucoup de femmes comme ça, là, aujourd'hui, ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que, voilà, quand on parlait de, est-ce que je peux abandonner? Ben non, parce que moi, je veux que les jeunes filles, là, qui me voient, elles se disent la même chose. Quoi, que quand on lui dit, bah, tu peux pas faire de sport, ben pourquoi? Moi, j'ai vu, Nora, elle le fait. La femme, elle le fait. Donc, pourquoi moi, non? Et je vois d'être dans cette mentalité aussi, toi, tu me dis pas ce que moi, je vais faire. Et justement, je regardais l'interview de Asya, la coureuse. Disait c'est pas à toi de me donner mes limites, c'est vrai, et je veux justement que les jeunes filles d'aujourd'hui qui me voient jouer ou qui m'écoutent, elles se disent si elle peut faire, moi aussi je peux faire, parce que c'est juste
c'est une difficulté, mais ça bloque pas au final, c'est
au contraire, ça motive. Moi dis-moi que je peux pas faire quelque chose et je vais le faire. D'ailleurs, au centre de formation, quand j'avais 16 ans là, quand je travaillais en France, ils m'ont dit, de toute façon, toi, tu joueras jamais pro parce que tu as commencé trop tard et tu arrives du Maroc sans technique. On m'a dit ça. Trois ans plus tard, je fais meilleur libéro en France, moins de 21 ans, devant la libéro de l'équipe de France. Wow. Il y avait une fille qui jouait avec moi à cette époque-là à 16 ans. Elle m'a dit, en pleurs, elle m'a dit, Nora, je me rappelle de ce que tu disais au centre de formation, comment ils te mettaient la misère, et là, tu leur montres que non. Et moi, c'est vraiment ça. C'est un drive. Et je suis contente, franchement. Je pense que c'est là mes parents. Je sais pas d'où ça vient, mais vraiment, si tu me dis, toi, tu pourras pas faire ça, ça y est, c'est fini.
C'est le motif. Pour prouver le contraire.
Et pourtant, c'est pas vraiment. Ça doit passer un peu de l'ego, mais c'est vraiment une motivation en mode, je le prends pas mal. Je le prends en mode, ah ouais, demain, ouais. Allez, c'est parti. Et voilà, je veux que les filles d'aujourd'hui à qui on dit. Non, ça sert à rien. Comme ça sert à rien. Ben, regarde cette personne-là. Et de se dire dans leur tête, non, ça sert pas à rien. Genre, il y a des autres personnes qui ont fait ça, donc moi aussi je peux le faire. Genre, ça, c'est très important.
Ou est-ce que le chien a dit quelque chose ou le chien a dit quelque chose aussi? Imkin ma kanchi mziana fhal had l'exemple a tetina, mais a dit d'une bonne manière.
Donc, au contraire, quelque chose qui m'a poussé.
Qui t'a poussé, oui.
Ben, beaucoup de personnes aux États-Unis. Parce que quand tu arrives aux États-Unis, enfin, moi, en plus, quand je suis arrivée, c'est vraiment genre ce qu'on appelle underdog. Donc, là-bas, ils ont des super systèmes, ils ont toute la famille qui vient au match, moi, rien du tout. Là, d'ailleurs, jusqu'à ce que je me blesse et que je rentre au Maroc vraiment et que je revive au Maroc pour la première fois depuis mes 16 ans, j'entrais au Maroc, je partais en compétition. Il y avait que mes parents qui savaient, qui regardaient mes résultats. Je revenais, je repartais aux États-Unis. Personne qui me soutenait, personne qui me suivait. Là, par contre, bon, ça a changé. Là, j'ai une communauté au Maroc. Donc, là, vraiment, ça fait plaisir d'avoir fait la première fois l'année dernière depuis ma carrière. Mais quand je suis aux États-Unis, c'est toute seule, quoi. Genre, de voilà, c'est que j'ai joué. Personne. Au contraire, j'ai les parents des jeunes en face de moi qui me heckle, qui sont contre moi, tu vois. Et, mais bon, quand, voilà, j'ai commencé. Enfin, voilà, j'ai commencé à faire partie de la communauté et tout. J'ai eu beaucoup de personnes, des coachs, surtout les coachs. Ils ont commencé à vraiment se mettre derrière moi et sur mes, pour le niveau africain, c'est vraiment, voilà, ça sous-estime pas, même ici pour les États-Unis, genre, t'es une bonne joueuse. Et vraiment, c'est des trucs qui, je me rends pas compte parce que moi, j'ai vraiment je me sous-estime, surtout par rapport aux filles aux États-Unis, qui est vraiment, c'est mon travail. Et d'avoir des coachs ou même des joueuses, se dire, Oh, non, you're a good player. Genre, je te dis, quand tu entends ça aux États-Unis, c'est pas le you're a good player, genre, pour le Maroc. Parce que pour le Maroc, évidemment, genre, je m'entraîne aux États-Unis. Mais quand c'est quelqu'un aux États-Unis ou quelqu'un encore que tu as vu jouer pendant des années et que là, tu t'entraînes avec, elle te dit you're a good player, tu dis, et là, tu te dis, OK, motivé, c'est bon, je vais tout donner, tu vois, genre, c'est vraiment, il n'y a pas que ça. C'est aussi quand je rentre au Maroc, ma partenaire ou mes partenaires d'entraînement, donc, on est quatre ou six, ça dépend. Et des fois, je me dis, je fais des erreurs à l'entraînement, je me dis, je ne dois pas faire ces erreurs. Moi qui m'entraîne aux États-Unis, je ne dois pas faire ces erreurs. Et du coup, je m'excuse. J'ai un partenaire, je dis, ah, Lium, je ne sais pas ce que je fais, là, Yana, ou là, rien qu'une scharbe. Elle me dit, comment c'est que scharbe? Elle me dit, ça ne va pas, mais tu n'as pas vu où je mis le ballon. Et donc voilà, des fois, enfin voilà, tu as besoin de ça, oui et non. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir des. Parce que ça remet les choses en perspective. Je ne sais pas si j'explique bien, mais voilà, quand tu as des commentaires comme ça sur le terrain, tu te dis OK. Parce que c'est facile dans le sport que je fais moi, qui est individuel, c'est facile de se dire je ne suis pas assez bonne tout le temps. Surtout quand tu t'entraînes dans un endroit où tu as les joueurs olympiques, pas les joueurs olympiques, les joueurs qui gagnent les Jeux olympiques, c'est même pas les joueurs qui vont aux JO, ceux qui gagnent les JO, tu te dis ouais, il y a un monde entre eux et moi. Oui, il y a un monde entre eux et moi, mais aussi il faut relativiser. Moi, je n'ai pas grandi sur les plages de Californie. Moi, j'ai commencé tard. Surtout le beach volley, j'ai commencé à 20 ans vraiment. Donc voilà. C'est vrai que quand tu as des commentaires comme ça, ça fait du bien.
En parlant de JO, justement, en parlant de JO, d'avoir gagné une JO par Elia Lapweb, quelle est la préparation psychique ou physique aussi?
Bah là, j'aurais bien aimé être justement en Californie m'entraîner, vu qu'on n'est pas à Bali, mais bon, c'était pas possible. Là, c'est pas normal que je m'entraîne pas pour le Califogio. C'est pour ça que là, je stresse beaucoup. Mais on a une bonne équipe. La Califogio, ça joue à deux équipes par pays. Nous, on a deux bonnes équipes cette année. Donc, pour moi, c'est l'année où on doit se qualifier. Ça va juste dépendre de voilà, notre préparation, de ce qui va se passer. Il y a des très, très bonnes équipes en Afrique. Hein. C'est pas il y a 4 ans, c'est pas il y a 8 ans. Le niveau, il a monté énormément. On a plusieurs pays. Avant, il y avait un ou deux pays auxquels il fallait faire attention. Là, je peux visiter dans ma tête, il y a au moins 4 pays auxquels je peux penser qu'ils peuvent gagner les JO, la Califogio. Donc, voilà, ça va dépendre de comment nous, on va jouer les deux équipes. Pas que une équipe, les deux équipes, comment elles vont jouer. De comment on va être encadré, de la stratégie qu'on va adapter. Enfin, voilà, ça va dépendre de tout ça, de notre mental. Et le mental, il y a toute une préparation qui se passe dans le mental. Moi, j'ai beaucoup de livres et après, je sais que ma partenaire, elle en demande beaucoup de moi mentalement. Je sais que il faut que je sois moi à 100% mentalement sur le terrain pour qu'on puisse gagner. Si moi, je suis à 80%, c'est là où on va commencer à être genre un peu dans la zone un peu de danger. Donc là, justement, j'en profite pour vraiment m'entraîner physiquement, techniquement. De vraiment préparer mon mental, mais c'est pas facile de s'entraîner, c'est pas facile loin de des États-Unis. Mais bon, ce soir-là, ça a bien se passer. Là, j'ai les Jeux méditerranéens. Après, on a le championnat du monde. Donc là, c'est un peu compliqué parce que les Jeux méditerranéens, c'est du 4x4, c'est une nouvelle discipline. Donc, pas bon parce qu'on est en train de s'entraîner à un autre sport, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on s'adapte. Après, il y a le championnat du monde. Et après le championnat du monde, je rentre aux États-Unis. Et là, vraiment, je vais me consacrer à vraiment m'entraîner à fond, à fond, à fond, à fond. Ça va être juste voilà, l'objectif, Jeux Olympiques, il n'y a rien d'autre dans ma vie, et là, c'est mon visa, c'est fini. Je suis en train de voir pour demander la green card, donc c'est pas fini, mais je veux dire, c'est pas urgent. Donc là, vraiment, quand je repars aux États-Unis en novembre, je vais vivre beach volley, rien d'autre. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de, viens, on va fêter l'anniversaire de cette personne, viens, on va sortir, viens, on va en voyage là. Non, je m'entraîne, et je travaille, évidemment, sinon je peux pas m'entraîner. Donc ça va être, voilà, entraînement à fond. Voilà.
Ça va être 100% du beach volley et tout.
Pas 100% malheureusement parce que voilà, il faut bien gagner sa vie, mais
Ou en parlant des équipes, les Richard Kouf, les JO, Paris. Je nous les équipes qui disent qu'ils sont forts beach volley ou les adversaires.
En Afrique ou dans le monde?
Dans le monde.
Dans le monde, c'est alors en femmes, c'est les États-Unis, le Brésil, l'Allemagne surtout, le Canada aussi. Très, très forte. Dans les garçons, c'est la Norvège. Ils ont une équipe monstrueuse. Norvège, États-Unis, Brésil. Ils commencent à avoir quelques pays européens aussi qui commencent à vraiment faire des gros résultats. Donc voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de coachs brésiliens et américains. C'est vraiment, voilà, c'est les meilleurs mondiaux. Donc, Voilà. Bon, nous, il y a quand même encore un monde entre le niveau africain et le niveau, voilà, américain et brésilien. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas du tout les mêmes ressources, on n'a pas du tout les mêmes, voilà, les mêmes, on n'a pas les mêmes moyens. On a
Donc, ils
beaucoup de
sont
talent.
été plus orientés monde parce qu'en fait, vous êtes championne déjà de l'Afrique. Donc,
Voilà, c'est pour ça que nous, maintenant, on veut passer à un autre cap, mais c'est pas encore possible. On n'est pas, pour ça, il faudrait que ma partenaire vienne avec moi, s'entraîner aux États-Unis. Que, voilà, qu'il y ait un accompagnement financier, parce que moi, je peux pas m'entraîner autant que, voilà, les joueurs olympiques américains, parce que eux, ils sont accompagnés, soit de sponsors, soit de leur fédération, ils n'ont pas à payer le visa que moi j'ai à payer, ils sont déjà sur place. Voilà, ils ont beaucoup plus de moyens, donc du coup, ils peuvent se concentrer vraiment que sur, enfin, ils peuvent faire leur musculation 5 fois par semaine. Moi, je peux pas faire de musculation 5 fois par semaine. Si je fais ça, ben, je peux pas vivre, je peux pas manger. Je peux pas me payer à manger. Je peux pas me payer mon visa pour rester là-bas. Donc voilà, et pareil, ma partenaire, elle veut venir s'entraîner avec moi aux États-Unis, mais c'est compliqué. Elle est marocaine, il faut un visa, il faut une invitation. Les billets d'avion, elle peut pas se payer, c'est très cher. Donc voilà. Donc on n'est pas encore au niveau d'être à ce niveau-là. Et malgré nous, parce que nous, on aimerait bien. Mais bon, ça commence petit à petit, ça commence. Là, même l'année dernière, on joue contre l'équipe américaine, une équipe américaine au World Tour. On fait des bons résultats, on les tient bien au score, alors que d'habitude, bon. Quand les équipes africaines jouent sur le World Tour, parce que là, c'est vraiment le World Tour, donc c'est le meilleur niveau. Normalement, c'est un carnage un peu. Et ça reste encore très dur, hein, mais, parce que voilà, genre, moi, je suis en repos là. Elles sont en train de s'entraîner, sont en train de jouer plein de tournois dans le monde entier, avec leurs partenaires. Alors nous, déjà, avec Imen, on a énormément de, je dirais pas de la chance, parce que ça vient de nous. Mais on a une cohésion d'équipe qui est incroyable par rapport au fait qu'on se voit pas de l'année, on s'entraîne pas de l'année, alors que les équipes voilà internationales, elles s'entraînent toute l'année ensemble et elles jouent 40 000 tournois ensemble dans l'année. Nous, on joue 2 tournois par an ensemble, on s'entraîne 1 mois, 2 mois ensemble de l'année et après voilà et on arrive à gagner comme ça. Genre c'est incroyable. Enfin, je trouve qu'on ne donne pas assez de mérite par rapport à ça parce que surtout à Imen. Je trouve qu'on nous demande de gagner à chaque fois, alors que il y a l'équipe du Mozambique qui, elle, sont en train de jouer sur le tour mondial là, ensemble. Et pourtant, on les bat. Donc, enfin, moi, je pense, imaginons, nous, comment ça se joue sur le tour mondial. Enfin, voilà, je trouve qu'on pourrait faire encore plus de résultats et on en a envie, mais bon. Voilà, c'est pas facile, c'est pas facile.
Ouais. Je pense qu'en même temps, la récompense que tu comptes bien, mais les cas de alors que tu m'as touché les moyens, les rendez des équipes après.
C'est ça. Mais bon, le problème, c'est qu'on sait qu'on a plus de capacités que ça et on est limité parce que c'est compliqué. Elle joue en indoor en plus. Donc là, par exemple, elles sont avec l'équipe indoor. Et moi, on m'a proposé d'aller avec l'équipe indoor, mais c'est pas mon sport, c'est plus mon sport. Je veux pas, pourquoi je vais aller faire ce sport alors que j'ai les championnats du monde qui arrivent, le beach. Elles n'ont pas le choix parce qu'elles jouent à l'année au Maroc en indoor. Moi, je joue plus en indoor. Donc voilà, j'ai la possibilité de dire que c'est pas mon sport. Elle, non. Donc, du coup, et en plus, on n'a pas d'équipe sans elle. Les filles, c'est les meilleures joueuses de l'équipe indoor. Donc, voilà. Donc, elles doivent aller jouer en indoor. Donc, c'est compliqué parce que si elle n'était pas en indoor et qu'elle était en train de s'entraîner, par exemple, si elle était avec moi, qu'on soit même juste en Europe pour s'entraîner contre des équipes européennes, notre niveau, il serait déjà, enfin, là, il serait là, quoi. Mais bon, malheureusement, on n'a pas assez de joueuses au Maroc. Donc, il faut bien qu'elle joue en indoor. Mais bon, ça
Et le
commence à
fait
se
de pas
développer.
jouer, le fait de pas jouer en indoor, ben, pas dit que c'était un choix stratégique ou là, tu vois pas, en fait, tu vois que c'est pas du tout le même sport et que c'est pas.
Moi, j'ai fini, j'ai rejoué avec l'équipe indoor en 2021. Ça faisait 4 ans que j'avais pas joué en indoor, que j'avais pas touché un ballon indoor. Je me suis dit, je vais rejouer parce que voilà, ça m'avait fait mal au cœur d'arrêter ma carrière après l'université parce qu'il n'y a rien d'autre pour l'indoor aux États-Unis. J'ai rejoué, on m'a fait jouer dans le championnat national, j'ai gagné le championnat national, j'ai fait meilleure défenseuse. Je me dis, ça y est, j'arrête ma carrière dessus. Mon corps, il a pris du temps à se remettre après ça parce que c'est même pas la même surface. Donc, tu prends beaucoup plus de chocs. J'avais plus l'habitude, je suis passée directement en compétition comme ça sans m'être entraînée en indoor du sable, directement en compétition. Mon corps, il a eu beaucoup de mal à se remettre après. Et puis, c'est pas la même technique du tout. Ma technique, en fait, j'ai dû passer 3 semaines à moi à reprendre ma technique de beach après. Donc, en fait, c'est counterproductive. Je passe pas mon année à sacrifier à ma vie sociale, mon argent et tout à m'entraîner au beach pour venir et changer complètement de sport 2 mois avant les championnats du monde de beach volley. C'est vraiment Non, moi je joue plus au volley indoor, c'est plus mon sport. Moi je suis spécialisée que beach, ça y est. C'est donc j'ai pris, ça y est, je veux plus, enfin, je veux plus vraiment spécialement jouer en indoor. C'est pas un sport qui maintenant m'attire. Mon
sport, c'est du volley. Le risque de blessure, le risque de blessure qui est plus que
c'est un ballon beaucoup plus dur, donc il suffit que je prenne un peu mal sur les doigts, je peux me casser un doigt parce que mes doigts ont plus l'habitude et c'est pas la même technique. Donc, et ouais, voilà, tu peux te blesser plus facilement. Je me suis fait mal à la cheville d'ailleurs la dernière fois que je me suis joué en indoor. Bon, après, c'est pas grave, c'était pas très grave, mais oui, tu peux te blesser beaucoup plus facilement en indoor parce que tu as plus de personnes sur le terrain, donc tu as des collisions beaucoup plus souvent qu'au beach, et puis encore une fois, c'est pas la même surface, donc ton corps, tu le choques, tu fais passer du sable à une surface dure, c'est pas bon. Moi j'ai 30 ans, c'est pas bon, c'est à mon âge, mais non, c'est pas spécialement bon pour quelqu'un qui a pas été en indoor depuis longtemps, de passer directement en compétition en plus, c'est pas son compétition. Et puis de toute façon, je pense que j'ai plus trop le niveau. Enfin, en 2021, c'est passé. J'étais deuxième numéro, j'étais quand même pas sur le terrain, parce que, enfin, heureusement, je trouve que c'est pas normal que, après 4 ans d'arrêt, je sois titulaire, mais ça va, c'est quand même passé, j'avais le niveau, mais là, en fait, même mentalement, je suis pas motivée pour jouer en indoor, ça m'intéresse pas. Moi, je joue au beach. Là, j'aimerais bien aller jouer sur tournoi international, au beach.
Donc, toi, tu te concentres sur le beach, c'est ça le plus important. Ou Dajana Makchouin, championnat d'Afrique, beach volley en 2022. كيفاش دازت ديك كيفاش دازت ديك المرحلة وكيف شنو لي سوفينير كو تي غارد من هاد لا بيل ريكومبانس.
C'est des super souvenirs, mais ça a été stressant parce que, comme je dis, j'ai raté la qualif aux Jeux Olympiques. Et donc, j'ai regardé les filles jouer et perdre en demi-finale, ça a été très dur. Je me suis entraînée avec les filles, même blessée, j'ai pas fait ici avec mon bras parce que je peux pas lever le bras jusqu'en haut. Et donc, en fait, si on regarde les vidéos de matchs et tout, enfin, des posts que j'ai mis sur Instagram, on voit toutes les émotions, toute l'attente, toute la rage de ne pas avoir pu faire de compétition, de même pas jouer au beach volley, c'est même pas que les compétitions, je pouvais pas jouer pendant un an, plus d'un an. Et même là, le championnat d'Afrique, j'ai joué, j'étais quand même pas, j'avais de la douleur, hein, j'étais pas encore complètement rétabli. Et donc, ça a été beaucoup de stress, de est-ce que je vais pouvoir jouer? On savait pas si mon épaule était prête. Est-ce qu'elle va tenir tout un tournoi? Est-ce que, voilà. Et est-ce que je vais avoir le même niveau sans m'être entraînée vraiment, sans avoir fait de compète vraiment depuis si longtemps? Est-ce que ça va suffire? Donc, c'était beaucoup de stress, beaucoup de questions, beaucoup de, est-ce que j'ai encore le niveau, quoi? Est-ce que ma carrière, elle voit encore quelque chose? Donc, ça a été beaucoup d'émotions qui sont sorties sur le terrain. J'ai joué beaucoup avec ma passion plus qu'avec mon physique et ma technique. Parce que j'avais juste repris l'entraînement. Justement, je m'étais payé un billet d'avion pour repartir aux États-Unis pour m'entraîner un mois là-bas. Parce que je me suis dit, je peux pas, revenir comme ça directement en compétition. Et après, je me suis entraîné avec l'équipe nationale. Donc, j'ai eu 2 mois d'entraînement, peut-être. Ou même pas, je pense même pas 2 mois d'entraînement. Et donc, c'était un test. Est-ce que ma carrière est finie ou pas? Et puis, finalement, ça s'est bien passé, mais ça a été beaucoup de stress mentalement et physiquement, et après, bon, beaucoup d'émotions sont sorties sur le terrain et ça se voit. Parce que c'est le tournoi que j'ai joué avec le plus d'émotions de ma vie, je pense. Et ça a aidé aussi pour gagner. Donc, c'est des bons souvenirs, mais après, encore une fois, c'est un titre. C'est mon premier championnat d'Afrique, moi. Donc, ma première participation et donc ma première médaille au championnat d'Afrique. Et donc, pour moi, c'est pas enfin voilà, il faut le refaire maintenant. C'est pas, on l'a fait une fois et ça y est. Bah, faut le refaire maintenant. Comme là, les Jeux africains, on les avait gagnés en 2019. Là, c'est hors de question qu'on ne gagne pas pour moi. Alors, ça suffit pas de gagner en 2019. Il fallait qu'on regagne encore pour dire, OK. Là, maintenant, tu peux dire, OK. J'ai réussi quelque chose. Pour moi, une médaille, c'est pas, tu peux gagner une médaille avec un coup de chance. Avec un tirage au sort qui se fait bien. Tu gagnes les bonnes équipes au bon moment. Voilà. Tu peux gagner une médaille dans ta carrière. Pour moi, ça définit pas ta carrière. De le faire plusieurs fois, là, tu peux dire, OK. Là, il y a du mérite. Mais de le faire une fois, non.
Du coup, je ne sais pas la leçon, il y a quand même une leçon que tu as tirée de l'expérience. Je ne sais pas si tu as
Il faut rester discipliné. C'est là parce que ma rééducation de l'épaule, ça a été beaucoup de moments où je me dis, je n'ai pas envie d'aller chez le kiné, j'en ai marre, je passe ma vie chez le kiné. Et si je n'avais pas fait, mon épaule n'aurait pas été prête pour la compétition. Discipline et le mental. Dans le sport, alors en indoor, c'est pas pareil. Au beach volley, t'as pas de remplaçant. La stratégie du beach volley, c'est de prendre une joueuse de l'autre équipe et de la target tout le match pour la faire craquer mentalement. Et tu es tout seul sur le terrain. Et si toi, tu sors pas un bon jeu, il y a personne pour te remplacer, tu vas perdre. Non seulement tu vas perdre, mais en plus, c'est sûr, tu vois. Genre, donc, tout le monde te regarde, il y a que toi sur le terrain, tu peux rien faire d'autre. Donc, c'est discipline mentale. Mentale.
Ou comment tu travailles ton mental, justement?
Alors, là où j'habite en Californie, tout le monde a des coachs mentales, presque. Moi, personnellement, financièrement, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai beaucoup de livres. J'ai beaucoup de livres sur la préparation mentale. Voilà, ouais, bon, ça suffit pas encore. Il y a des moments, évidemment, surtout à l'entraînement. En compétition, c'est différent. En compétition, j'arrive à me gérer, généralement. Et justement, à l'entraînement, c'est là où, des fois, je pète des câbles. Hein, il suffit que, voilà, ça se passe pas bien avec, je sais pas, mon physique, ou que j'ai mal à l'épaule, ou que ça se passe pas bien avec le coach. Je peux très bien, genre, sauter mentalement à l'entraînement. Mais justement, c'est ça qui me prépare pour les compétitions. Ça sert à l'entraînement. Comme ça, en compétition, ça sort pas. Mais ouais, c'est beaucoup de travail sur soi-même. Surtout moi, parce que quand j'arrive au Maroc, généralement, j'ai passé une année dure aux États-Unis, donc c'est déjà, voilà, un peu à bout, et donc du coup, voilà, ça se passe pas bien, et c'est à moi de revenir et de me dire, bon, demain, faut changer ça. Voilà, c'est l'apprentissage tout le temps. Surtout le mental. J'ai jamais eu de préparation mentale. C'est pas un truc qu'on fait au Maroc, vraiment, tu vois. C'est pas quelque chose auquel je suis habituée.
Il y a une des sports que tu fais pour justement pour la préparation mentale, de la méditation peut-être.
La méditation, j'ai essayé, mais je suis hyper active. Moi, c'est très dur de pouvoir me poser quelque part et d'écouter. Mais le surf, ça m'aide beaucoup parce que c'est quelqu'un qui, voilà, mon cerveau, il est à 1000 à l'heure tout le temps. Et donc, le surf, ça me permet de vraiment genre arrêter mon cerveau pendant l'espace d'une heure ou deux heures. Parce que le surf, tu peux pas te concentrer sur autre chose que les vagues qui arrivent, qui vont te tuer. Enfin, pas te tuer, mais bon. Et du coup, ça m'aide beaucoup mentalement. Ouais, c'est un repos de mon cerveau pendant une ou deux heures. Et d'être dans l'eau aussi, dans l'océan, c'est quelque chose que je peux pas décrire. Ça m'aide beaucoup. Et c'est quelque chose dont j'entendais parler des surfeurs avant de faire du surf. Je me disais, ouais, ils exagèrent. Alors que non, pas du tout. C'est addictif. Et pour moi, c'est ma thérapie. Voilà. Ma thérapie gratuite. À peu près.
Ok, exactement. Ça t'a pris du temps pour faire du surf? T'as de l'omzé, ouais, ou là?
Moi, j'ai tiré de l'océan. J'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Quand j'étais blessée, en fait, je me trouvais à une semaine en Europe. J'ai commencé le surf là-bas et je tombe amoureuse. Et depuis, ouais, ça m'aide. Là, par exemple, au Maroc, quand je ne m'entraîne pas, heureusement que j'ai le surf pour au moins faire quelque chose de physique et de penser à autre chose pendant l'espace de quelques heures par jour. Et puis, j'ai trouvé une communauté aussi de surf au Maroc qui, pareil, ça me change. C'est bien de sortir un peu de son environnement, parce que sinon, ça devient un peu trop toxique d'être H24 dans le monde du volley. C'est pas vivable, tu peux pas.
Alors, c'est pas évident de travailler dans le domaine toute seule. Avec des coachs aux États-Unis, mais c'est une équipe. Tu prends tout sur toi et tout. Tina, tu es responsable à 100% de ce qui se passe.
Exactement. Si j'arrive à l'entraînement, j'ai pas envie de m'entraîner, mon coach, il va pas me dire, allez, Nora, c'est pas l'entraîner, ok, t'entraînes pas. Genre, c'est pas mon problème, quoi, tu vois.
C'est vrai. Ok, aussi les voyages, les allers-retours, les États-Unis, c'est une charge mentale aussi qu'il faut gérer.
Je stresse parce que là, je travaille pas quand je suis ici. Donc, du coup, je stresse ma situation financière, mon loyer que je dois payer aux États-Unis, alors que j'ai pas le même salaire ici quand je suis là-bas, donc voilà. Beaucoup de choses comme ça.
Merci beaucoup, Nora, l'expérience d'Alec, l'histoire d'Alec. Ça m'a fait plaisir de découvrir ton histoire aujourd'hui.
C'est gentil. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui parlent de choses différentes un peu. Donc, merci à vous.
Je ne sais pas si tu as une chose que tu as dit ou une expérience que tu as partagée avec nous aujourd'hui.
Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, pour n'importe quelle personne qui entend ce que je dis, moi je, voilà, je fais ça sans vraiment avoir rien. À part, bon, peut-être de l'éducation, oui, mais j'ai une éducation et un corps. Donc, si quelqu'un se dit, est-ce que moi aussi je peux faire ça, il n'y a pas à se demander ça. Oui, tout le monde peut le faire. Donc, voilà, la motivation, la détermination, la discipline.
C'est vrai que quand je vois la carrière d'Elik et tout, ni chacun connaît qu'il y a les États-Unis, qu'il y a les voyages, donc sûrement, il y a côté financier.
Oui, mais j'ai toujours pas le droit d'ailleurs d'avoir de green card. J'ai toujours pas. Moi, je suis en visa aux États-Unis depuis 10 ans. Depuis 10 ans, un visa qui me coûte cher. Il y a personne qui me donne le droit d'être aux États-Unis. C'est moi qui me crée le bel. Donc moi, je suis partie. Je suis cherchée sur Internet comment aller jouer en université là-bas. C'est moi qui ai contacté une agence. Je connaissais rien. J'ai dit à ma mère un jour, l'année prochaine, je pars aux États-Unis. Elle dit, non, comment tu pars aux États-Unis? Toi, tu penses que tu vas pas se faire comme ça aux États-Unis? J'ai dit, non, j'ai contacté quelqu'un. J'ai trouvé. Voilà, pour rechercher. Et même là encore, voilà, si je travaille pas tout le temps, je peux pas payer ma situation aux États-Unis. Mais il faut savoir, voilà, faut savoir si vraiment tu veux faire quelque chose. Est-ce que tu es déterminé à vraiment sacrifier, voilà, faut être sûr de toi pour
Ou sinon
entendre.
باش نغير نرجعوا شويه للكونتكست ديال البودكاست ديالنا اللي هو كنهضروا فيه على الاكسباترياسيون. اذا قدرت تلخص لنا شويه الاكسبيريونس ديالك الاكسباترياسيون في كلمه واحده، شنو تقدر تكون هذه الكلمه؟
Oh, c'est dur. Expatriation en un mot. Une aventure, moi je dirais. Vraiment une aventure, moi. Vraiment une aventure. Ouais.
و فوالا سالينا الحلقه ديالنا اليوم.
شكرا على الاستماع ديالكم
ونتلقاو في حلقه جديده مع ضيفه جديده.
كانت معكم رانيا وهدى دو لا باج ميما لايف. ا بيانتو.